Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast « La justice et moi ». Je suis Nadia Bouria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Emmanuel Wallet. Vous êtes greffier aux justices de paix du Hainaut, plus précisément dans le canton de Hattes. Bonjour et merci de me recevoir.
Bonjour Madame Bouria, merci à vous.
Alors, on va commencer par ma première question rituelle qui est, quel est votre parcours? Comment vous êtes-vous retrouvé ici à la justice de paix de Hattes et greffier?
Alors mon parcours, il est assez long puisque j'ai 48 ans et j'ai débuté dans la justice à l'âge de 20 ans. Donc je suis entrée au palais de justice de Tournai en tant que collaboratrice au tribunal de première instance en section correctionnelle. Mmh. Et là, j'y suis restée pendant 6 ans. Mmh. Ensuite, j'ai passé les examens pour devenir greffier et j'ai été nommée greffier en correctionnel également. Et je suis restée 4 ans, d'abord dans le correctionnel pur, ensuite le greffe de la chambre du conseil. Et là, j'ai fait quelques audiences civiles, mais très très peu. Et puis en 2007, j'ai basculé vers l'instruction.
Okay.
Là, j'ai professé pendant 3 ans à l'instruction. C'était très intéressant, mais avec la vie de famille, pas très compatible en fait.
Oui, ça c'est... On ne va peut-être pas s'y attarder, mais si on a l'occasion, on peut peut-être dire un mot tout à l'heure de ce que ça implique d'être greffier d'un juge d'instruction. C'est encore un autre métier en fait.
Oui, tout à fait. Et donc, en fait, c'est le problème de la combinaison avec la vie de famille qui a fait que je suis entrée en justice de paix. Donc d'abord à Tournai. En 2011, je suis entrée à la justice de paix de Tournai en qualité de greffier. Et à partir de 2022, j'ai été mutée ici à la justice de paix d'Hattes jusqu'à ce jour. Donc je suis toujours greffier ici.
Et d'ailleurs, vous remplissez une fonction de chef, non? Vous
êtes... Depuis début de l'année, oui. J'ai été désignée en qualité de greffier dirigeant.
Greffier dirigeant, c'est comme ça que ça s'appelle.
Oui.
Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous encadrez, vous managez tous les greffiers du canton?
Oui, toute l'équipe, donc le greffe et les greffiers, j'organise le travail de tout le monde, je répartis les charges de travail, je m'occupe aussi des évaluations, donc l'aspect un peu plus disciplinaire, on va dire. Je m'assure que tout fonctionne bien et je participe aussi, bien sûr, aux audiences et à tout le travail de groupe qu'il y a derrière.
Ok. Est-ce que vous préférez qu'on parle maintenant de ce que ça impliquait d'être greffier d'un juge d'instruction ou préférez qu'on termine par ça?
On peut en dire quelques mots, oui,
oui.
En fait.
Parce que, alors, je pense que c'est un des tout premiers épisodes, si je ne m'abuse, c'est l'épisode 4, il y a un épisode qui est consacré au travail du juge d'instruction, donc pour qu'on sache ce que fait un juge d'instruction, mais pour schématiser, le juge d'instruction, il mène une enquête. Voilà, on va dire ça comme ça.
Ouais.
Et ça veut dire que le greffier, vous accompagnez le juge d'instruction, en fait.
Oui. En fait, peu importe le greffier dont on parle, c'est ça son métier, en fait, c'est accompagner le juge. Et d'ailleurs, le juge ne peut aller nulle part sans son greffier.
Okay.
Et donc, pour tous les déplacements, pour tous les actes, pour le contrôle de la procédure, de la régularité, etc., le greffier, peu importe le tribunal où il se trouve, c'est son rôle.
Mm-hmm. Et donc, tout à l'heure, vous parliez de l'incompatibilité d'être greffier d'un juge d'instruction avec une vie de famille. C'est parce que parfois, le juge d'instruction, il descend, par exemple, sur les lieux d'un meurtre. Et,
oui.
Et donc, ça veut dire qu'on vous réveille, imaginons, parce que souvent, ils ont lieu la nuit, mais pas toujours. Mais imaginons qu'il y a un meurtre qui se produit durant la nuit. Le juge d'instruction est appelé, il décide de descendre sur les lieux, il vous réveille aussi.
Oui, tout à fait.
Donc,
ça m'est arrivé, effectivement. Donc, et à ce moment-là, vous devez vous lever et vous rendre sur les lieux du meurtre. Et donc, pour la petite anecdote, c'était en hiver. Et c'est vrai que dans les petits chemins de campagne, j'étais pas à l'aise. Mais bon, ça fait partie du métier. C'est très, très intéressant, mais c'est très prenant aussi.
Voilà. Et du coup, vous avez basculé en justice de paix.
Voilà. Donc,
okay.
J'ai pris la décision de quitter le pénal, que je ne regrette pas du tout d'ailleurs, pour entrer en justice de paix, comme je vous disais, en 2011. Donc d'abord à Tournai, là en fait c'est une justice de paix qui est constituée de deux cantons, donc le premier et le second canton. Et donc les équipes, les deux équipes ont fusionné pour ne former qu'un seul greffe. En justice de paix, en fait, il y a des cantons plus gros que d'autres et donc des équipes aussi plus importantes. Ici à Hatte, donc, on peut dire qu'on est une équipe moyenne comparée à Alleuze ou à Tournai. Donc à Alleuze, il y a 4 membres du personnel. À Tournai, il y en a 12-13. Ici, on est 8. Et donc, c'est une belle petite équipe qui fonctionne très très bien.
Voilà. Ok. Alors, on va parler du métier de greffier, du coup, dans une justice de paix. Alors, on le rappelle, le juge de paix, c'est un juge de proximité et qui a un certain nombre de compétences qui lui sont allouées par la loi. C'est la loi qui dit le genre de dossier que le juge de paix peut prendre. Donc, on va dire globalement, c'est les baux. C'est toutes les contestations des factures d'énergie et tous les litiges, si je ne m'abuse, inférieurs
à 5 000 euros.
Oui. Voilà. Parfois, je m'en mêle les pinceaux, c'est 5 000 euros. Et donc, comment un dossier arrive sur votre bureau? Comment ça se passe dans la pratique?
Mais donc, en fait, il y a plusieurs modes de transmission de dossiers. Donc, on reçoit parfois les citations des huissiers de justice. Donc, ça, ce sont les dossiers de contentieux, donc les récupérations de factures classiques, ou alors parfois aussi des demandes de récupération de loyer en matière de bail à loyer. Donc ça peut être introduit par citation.
Donc citation, c'est quand c'est l'huissier qui vient déposer le document chez vous. Mais alors souvent, quand il y a un huissier, parfois il y a un avocat derrière qui a rédigé la citation, mais pas toujours.
Non, pas toujours, non. Mais donc, à ce moment-là, donc un particulier peut contacter un huissier de justice pour rédiger la citation. Et donc, en fait, la citation est une convocation plus détaillée pour convoquer donc, la partie adverse à une audience ici à la justice de paix. Mais donc, donc, si un particulier contacte un huissier de justice, ben, c'est l'huissier de justice qui va rédiger la citation pour lui, pour l'audience.
Donc il y a les citations.
Les citations, donc les requêtes. Alors donc à ce moment-là, c'est en matière de bail. Donc les requêtes pour récupération de loyers impayés ou restitution de garanties locatives. Parfois avec ou sans expulsion. Donc quand le propriétaire réclame des arriérés de loyer, il peut solliciter l'expulsion de son locataire. Et donc à ce moment-là, ce sont des courriers qui nous sont envoyés, donc sous forme de requête. Et les particuliers peuvent aussi faire appel à un avocat, mais c'est pas obligatoire. Donc ils peuvent introduire la demande par eux-mêmes. Nous avons d'ailleurs des modèles de requêtes sur le site internet.
C'est ce que j'allais vous dire. On ne prêche pas tous pour notre paroisse. Et des fois, quand le dossier n'est pas très compliqué, ce n'est pas utile de payer un avocat très cher. Il y a des formulaires que le greffe met à disposition des justiciables. Il suffit de remplir des cases, enfin remplir son nom. On remplit le montant qu'on demande. Et puis, il y a une série de documents qu'il faut déposer en même temps que ce formulaire. Et ça, c'est un des moyens de saisir le juge.
Oui, tout à fait. Et donc, c'est vrai que le site internet de la justice de Pédate est assez bien fourni en modèle pour les introductions par les particuliers. Il n'y a pas de souci.
Que ce soit la citation, la requête ou un formulaire rempli par monsieur ou madame tout le monde, ça arrive. Comment est-ce que ça, pratiquement, matériellement, comment ça arrive chez vous? C'est par courrier, par mail?
Les deux, en fait. On reçoit par courrier ou alors parfois par mail si les pièces sont scannées. Et donc le greffier, en fait, vérifie que toutes les pièces sont bien arrivées, que tout ce dont nous avons besoin figure au dossier. Et à ce moment-là, si nous avons toutes les pièces, alors nous pouvons enrôler, on appelle, donc encoder le dossier dans le système de la justice de paix. Créer le dossier, en fait.
D'accord, donc vous ouvrez un dossier.
Voilà.
Vous lui donnez un numéro.
Oui.
C'est ce qu'on appelle le numéro de rôle.
Oui.
Voilà, c'est un numéro à bien garder et à utiliser quand on correspond, que ce soit avec le greffe ou avec la partie adverse. Quand le dossier, vous le recevez, vous vérifiez que toutes les pièces sont OK, vous le créez. Après combien de temps vous convoquez les personnes ?
Ça dépend de la surcharge des audiences, mais je veux dire, dans le mois, généralement, parfois un peu plus. Mais les délais sont raisonnables. On a de toute façon un minimum pour la convocation, donc, puisque les convocations sont envoyées par courrier, par pli judiciaire exactement, mais c'est un recommandé. Et donc c'est vrai qu'on doit attendre quand même ce délai-là avant de fixer, mais sinon, oui, dans le mois, généralement, la demande est introduite.
Ok. Et donc, pendant cette période-là, donc, vous avez encodé le dossier, et pendant ce laps de temps, est-ce que vous avez une tâche qui vous est attribuée par rapport au dossier ou pas du tout ?
Dans les dossiers qui sont fixés aux audiences, oui, on réceptionne les courriers qui sont envoyés. Donc si par exemple un avocat est consulté par la partie adverse, ce qui arrive assez régulièrement, donc cet avocat nous écrit et donc nous encodons l'intervention de l'avocat dans le dossier qui a été créé.
Alors quand vous dites on encode, ça veut dire que vous êtes complètement dématérialisé ou vous avez encore des dossiers papier ?
On a encore des dossiers papier. Bon. On tend vers la numérisation, mais on travaille encore avec des dossiers papier pour l'instant, oui.
D'accord. Donc, ça veut dire que vous recevez le courrier de l'avocat et vous le classez au bon endroit dans le dossier.
Oui, c'est ça. Donc, les dossiers sont classés par date d'audience quand les dossiers sont fixés. Et donc, nous classons le courrier dans le dossier qui a été créé.
Ok. Ben, on va imaginer un dossier de bail, par exemple, un propriétaire qui est fâché parce que le locataire ne lui paye plus son loyer. Et donc, après un mois, on a une date d'audience. Donc, les deux parties sont convoquées. Donc, le bailleur, celui qui a déposé sa requête ou sa citation, et le locataire. Quel est le rôle du greffier à l'audience ? Qu'est-ce qui se passe ?
Donc en fait, avant d'aller à l'audience, déjà le greffier vérifie que tout est en ordre dans le dossier, donc que tout le monde a bien été convoqué à la bonne adresse, si les personnes ont bien reçu leur convocation, puisque c'est un recommandé avec accusé de réception. Ensuite, donc on vérifie que tous les avocats, s'il y a des interventions, donc on vérifie que tout a bien été encodé et que tout le monde est bien prévenu de l'audience. Ensuite, le greffier doit établir une feuille de travail. Donc ça, c'est la liste des dossiers qui sont fixés à l'audience. Et cette liste donc, doit être communiquée au magistrat et au greffe pour que le greffe puisse avoir connaissance de tous les dossiers qui vont être appelés à cette audience-là.
C'est ce qu'on appelle la feuille de
Oui, c'est ça. Ici, une feuille de travail. Mais okay. Voilà.
Donc, c'est un document qui fait parfois plusieurs pages avec la liste de tous les dossiers.
Avec les numéros de rôle. Donc, tout est repris dans l'ordre des numéros de rôle, en fait.
D'accord. Donc, les numéros de rôle et le nom des gens qui sont convoqués.
Voilà. Ok. D'accord. Voilà. Et donc, en fait, on remet toujours cette feuille au greffe pour que, par facilité, en fait, pour que le greffe puisse retrouver les dossiers qui sont fixés en cas d'appel téléphonique ou de demande d'information le jour de l'audience.
D'accord.
Parce qu'il y a parfois, c'est vrai que ça peut varier, mais on peut aller jusque plus de 100 dossiers à une audience quand on a des contentieux de masse. Donc toutes les citations pour des récupérations de créances, par exemple ORES ou la SWDE par exemple, qui va nous envoyer plus de 20 dossiers. Et donc forcément, ça augmente le nombre de dossiers fixés à une audience.
Oui. Ok, oui, parce que c'est effectivement, mais ça, je pense que les habitués des audiences en justice de paix voient de quoi il s'agit. Mmh. Et c'est vrai que la compagnie des eaux, les compagnies de téléphone, elles font fixer plusieurs dossiers à une même audience. C'est plus facile.
Oui, on regroupe généralement les dossiers. C'est plus facile pour eux et pour nous aussi. Oui. Et pour l'huissier sans doute aussi.
Bah oui.
Et l'avocat qui comparaît.
Ok, donc ça demande du travail en amont et c'est du travail continu ou vous faites ça la veille de l'audience par exemple ?
Bon, généralement, on essaye d'anticiper un peu quand même pour voir, parce que c'est vrai que s'il y a un problème au niveau des convocations, il faut pouvoir encore réagir. Et donc, généralement, on essaye d'anticiper. Mais bon, ça c'est... chaque greffier va travailler un peu à sa manière et c'est vrai que... on essaye quand même, en tout cas ici à Hâte, de voir ça avec un peu d'avance.
Oui. Parce que alors, ça fait deux fois que vous dites on vérifie qu'il n'y a pas de problème avec la convocation. Parce que quel est le risque s'il y a un souci avec la convocation ?
Mais le risque, c'est que la personne ne soit pas informée de l'audience et que donc elle fasse défaut le jour de l'audience. Donc défaut, ça veut dire qu'elle ne comparaît pas. Mm-hmm. Donc si c'est le défendeur qui fait défaut et qui n'a en fait pas été valablement convoqué, eh bien on ne peut pas le condamner par défaut. Mm-hmm. Ce ne serait pas légal.
Oui, effectivement. Parfois, il arrive qu'un juge prenne un dossier par défaut, si c'est demandé par l'avocat de la partie demanderesse, donc la partie qui assigne l'autre. Parce que, en fait, le juge va accepter qu'on condamne l'autre partie par défaut si on peut vérifier que la personne a bien été convoquée et qu'elle a décidé délibérément de ne pas venir.
Oui. Oui, exactement. Et donc, en fait, dans la convocation, on envoie une copie de la demande. Comme ça, la personne à laquelle on réclame une somme sait pourquoi elle est convoquée et ce qu'on lui réclame. Et donc, effectivement, si elle a bien reçu la convocation, si on a bien l'accusé de réception, alors c'est délibérément qu'elle ne comparaît pas et qu'elle ne veut pas se défendre de ce qu'on lui réclame.
Oui, et donc, petit conseil, toujours venir aux convocations, même si on pense que la demande, elle est pas juste parce que vous avez payé, etc. Il faut venir l'expliquer au juge, parce que le juge, lui, ne peut pas le deviner, il n'a pas accès au compte, il n'a accès à rien. Oui. Et donc, il faut venir avec, par exemple, l'extrait de compte qui prouve qu'on a payé et que l'autre personne, soit elle n'a pas bien compris, soit elle n'a pas bien compté, ou qu'on se trompe de contrat, ça peut arriver aussi.
Donc. Oui, tout à fait, oui. Pour ça, et alors aussi, par exemple, une personne qui reconnaît tout à fait la dette, qui n'a pas payé, et donc elle peut solliciter des facilités de paiement aussi à l'audience, et donc ça, c'est vrai que, quelque part, c'est une opportunité qui est offerte à la personne qui est condamnée, mais si elle ne comparaît pas, on ne pourra pas lui faire cette faveur.
Oui, elle ne peut pas demander de faveur si elle ne se présente pas.
Si elle ne comparait pas, voilà.
Effectivement. Ok, où est-ce qu'on en était dans notre petit dossier là qu'on suit toutes les deux ? Je m'y perds. Toute la préparation avant l'audience, donc vous vérifiez que toutes les convocations sont bien parties, que le dossier n'est pas perdu, parce que ça arrive, ça m'est déjà arrivé, d'arriver à une audience et que le dossier est perdu, mais c'est très rare. Et ensuite, arrive l'audience, j'imagine ?
Oui. Et donc, lors de l'audience, on assiste le juge. Donc, si des choses sont à acter au procès-verbal, donc le juge va nous le demander, ou les parties, parfois aussi les avocats, peuvent demander d'acter quelque chose. Le greffier prend les présences. Donc, ça, c'est important sur le procès-verbal. On doit bien noter qui est présent et si les personnes sont représentées par un avocat ou un membre de la famille, parfois.
Mais vous allez un peu vite. Donc, imaginons notre dossier avec notre bailleur et son locataire. On va les appeler François et Pierre. Comme ça, ce sera plus facile. Donc, vous avez parlé tout à l'heure de cette liste de dossiers. Mais j'imagine qu'elle est disponible pour que tout le monde voit si son dossier est bien inscrit à cette audience-là.
Oui, là, donc nous posons des feuilles d'audience, donc des feuilles de travail dans la salle pour mm-hmm. que les personnes puissent les consulter. Mais généralement, le public ne consulte pas les feuilles et donc non. Madame le juge appelle les dossiers dans l'ordre. Souvent, c'est la présence des avocats qui va déterminer l'ordre de passage des dossiers, puisque la majeure partie des dossiers sont fixés à 9h. Maintenant, c'est vrai que depuis le Covid, on a pris un peu l'habitude de fixer les dossiers à heure fixe. Et donc, par exemple, pour les loyers, c'est vrai qu'on les fixe plus vers 10h, 10h30, 11h. Mm-hmm. Mais l'audience publique se déroule entre 9h et midi, de toute façon.
D'accord. Voilà. OK. Donc, madame le juge appelle les dossiers, donc oui. Par le nom des gens. Oui. Et donc, imaginons que c'est le tour de François et Pierre. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Donc, ils arrivent, ils se présentent, ils viennent à la barre, ils exposent leur dossier. Pendant ce temps-là, vous, qu'est-ce que vous faites ? Parce que souvent, on voit le greffier à une audience assis, très souvent à la gauche du juge. Enfin, quand on regarde le juge, le greffier est plutôt à droite. Qu'est-ce que vous faites en fait? Quelle est votre tâche? Quelle est la mission qui vous est assignée?
Et donc, vraiment lors de la comparution, donc comme je vous disais, on doit noter qui est présent à l'audience. Mm-hmm. Donc ici, si les deux parties sont présentes en personne, donc on va l'indiquer au procès-verbal. Ensuite, on va indiquer ce que les personnes déposent. Donc souvent, dans un dossier de loyer, le demandeur, s'il est propriétaire, va déposer les preuves, le listing de ce qu'il a reçu comme loyer et va nous dire quels sont les loyers qui sont impayés. Mm-hmm. Et le défendeur, donc le locataire, va lui, s'il en a, apporter les preuves de paiement de ce qu'il aurait payé éventuellement. Et donc ça, c'est le greffier qui va noter quelles sont les pièces qui ont été déposées lors de l'audience.
Mmh. Et donc vous parliez tout à l'heure de noter des choses. Donc, par exemple, qu'est-ce que vous pourriez noter qui se passe durant l'audience ?
Par exemple, une partie qui demande une remise. Donc un dossier n'est pas forcément retenu à l'audience, à la première audience. Mmh. Qu'on appelle une audience d'introduction. Oui. Donc à ce moment-là, une des parties peut demander une remise, par exemple pour consulter un avocat ou pour déposer des pièces justificatives mais qu'elle n'aurait pas en sa possession. Mm-hmm. Et donc à ce moment-là, le greffier va noter le motif de la remise et la date à laquelle les parties seront reconvoquées.
D'accord.
Sinon, parfois, on peut noter aussi des incidents ou une déclaration. Si par exemple, on a convoqué un expert, ce qui peut arriver en cours de procédure, alors à ce moment-là, le juge va parfois nous demander d'acter certaines choses au niveau des déclarations de l'expert.
Mmh, ça donc, les choses les plus importantes, parce que j'imagine que l'expert, il aura aussi déposé son dossier, son rapport.
Oui.
Et donc, en plus du rapport,
parfois,
s'il y a des choses...
précisions, des petites
D'accord.
précisions.
Ok. Oui. Et alors, vous parliez tout à l'heure d'incident. Qu'est-ce que ça veut dire, un incident ?
Un incident, j'ai pas d'exemple en tête là, mais ça peut être par exemple. Je réfléchis. Non, j'ai pas d'exemple en tête, mais souvent, c'est quand il y a une. Un désaccord entre les parties et que donc ce désaccord est tel que finalement on se rend compte qu'il y a un élément du dossier qui doit être acté noir sur blanc dans le procès verbal pour que tout que toute la réalité du dossier figure sur papier dans le dossier. Mais j'ai pas d'exemple.
Vous
n'avez
pas
comme
d'exemple. Est-ce qu'on peut imaginer que par exemple le locataire qui comparaît sans avocat commence à s'énerver et qui n'arrive pas à garder son sang-froid, qui l'invective le propriétaire, qui l'invective le juge. Ça, on peut considérer que c'est un incident et le juge pourrait très bien vous le faire écrire, monsieur oui. a du mal à garder son calme, et donc j'ordonne que monsieur revienne avec un avocat, par exemple. Est-ce que ça peut être
un incident, oui. Ça voilà. m'est jamais arrivé, mais oui, ça peut être un incident.
C'est un exemple qui m'est arrivé. Donc, oui. D'une partie qui a du mal à se contrôler. Parfois, c'est des incidents entre les avocats aussi. Ça arrive. C'est rare, mais ça arrive aussi.
Oui.
Et donc là, quand le juge en a un petit peu assez...
Il
siffle la fin de la récré en demandant à son greffier d'acter l'incident. Et en général, ça calme, parce que ça figure dans le dossier. Ce n'est pas très sympathique pour tout le monde, mais bon.
Ah oui, non, voilà. c'est vrai que ça ne m'est jamais arrivé, en fait. Les gens sont relativement calmes.
Bon, c'est rare, hein, les incidents. En général, tout le monde est à peu près civilisé. à peu près.
Mais oui. Okay. Peut-être plus au pénal ou je ne sais pas, lors des audiences avec les détenus. C'est vrai que parfois c'était un peu plus chahuté, on va dire.
Oui, mais bon, comme le détenu, il subit une privation de liberté, il y a un petit peu plus de frustration et donc probablement que ça fait l'objet de plus d'incidents lors des audiences. Ok, donc on a parlé des remises. Ah, mais on n'a pas parlé des calendriers par contre.
Ah oui. Mais donc ça, généralement, c'est quand il y a des avocats dans le dossier. Bon, parfois, les calendriers judiciaires sont rendus...
Il faut expliquer ce que c'est, hein, parce que tout le monde n'écoute pas tous les épisodes. vous l'expliquez ou je le fais ?
Comme vous voulez, je peux l'expliquer.
Allez-y.
Donc en fait, un calendrier judiciaire, c'est une ordonnance prononcée par le juge qui va établir des dates bien précises auxquelles les parties doivent déposer leurs arguments. Mmh. Et donc les arguments, c'est sous forme de conclusion. Et donc on va commencer par un dépôt du défendeur qui peut exposer ses arguments face à l'acte introductif qu'il a reçu, donc la citation ou la requête. Et ensuite, le demandeur peut répondre à ses arguments à une date précise également. Et ainsi de suite. Généralement, il y a deux échanges de conclusions, mais parfois, pour les dossiers un peu plus compliqués, ça peut se prolonger. Mmh. Et puis, l'ordonnance donc, reprendra l'audience de plaidoirie, donc tout à la fin, quand
donc
tout
la
le monde...
date
d'audience. Mmh. Voilà. Et donc, quand tout le monde a déposé ses conclusions, quand chacun a fait valoir ses arguments par écrit, alors on fixera une audience où on pourra s'expliquer oralement à l'audience.
Donc, pour qu'on comprenne bien, donc, cette ordonnance, donc, on dit qu'elle est prononcée par le juge. Le juge dit, le défendeur, donc, c'est celui qui se défend. Donc ici, dans notre exemple, c'est Pierre, doit répondre pour telle date au plus tard et déposer à la fois ses arguments et les pièces qui prouvent ses arguments, s'il a des pièces. Ensuite, le demandeur, ici François, de la même manière, va répondre aux arguments de Pierre et ainsi de suite. Tous ces documents, c'est le greffe qui les réceptionne, donc c'est le greffier, c'est vous qui allez de nouveau, de la même manière que le dossier au tout début, qui va les classer
dans le dossier. Oui, tout à fait. Donc on va les encoder dans le système informatique et les classer dans le dossier. Certaines communications de pièces se font par voie électronique, donc les avocats peuvent nous déposer leurs conclusions et dossiers de pièces par voie électronique, mais les particuliers... c'est plus rare. Je crois qu'il pourrait y avoir accès, mais nous en avons très rarement.
Je pense que via e-deposit, ils peuvent le faire parce qu'ils peuvent se brancher avec leur carte d'identité.
Oui, mais c'est très peu répandu, en tout cas en justice de paix.
C'est peu répandu et je pense que la publicité n'a pas été beaucoup faite et donc les gens, effectivement, les personnes viennent déposer leurs conclusions ou les envoient par courrier. Mais ils doivent bien faire attention de bien les envoyer parce qu'il y a le délai dans l'ordonnance qui est le dernier délai, en fait, la dernière date à laquelle le document doit être déposé, donc les conclusions. Donc il faut bien
anticiper. Et surtout compter le délai pour l'envoi aussi, puisque c'est la réception des conclusions qui compte.
C'est là, oui, tout à fait. Et donc ça, parfois, il y a des petits couacs aux audiences avec des particuliers qui n'ont pas compris, qui pensent que c'est la date, le tampon de la poste qui fait foi. Or ici, en matière de justice, c'est plutôt la date de la réception par le greffe qui compte, puisque en fait on ne l'a pas encore dit, hein, mais dès que vous recevez un document, vous le tamponnez.
Oui, tout à fait. Donc on indique la date de réception au greffe pour toutes les pièces qui entrent.
Et ça permet, si par exemple il y a une contestation plus tard en disant oui, mais monsieur n'a pas déposé ses documents en temps et en heure, le juge peut le vérifier parce qu'il y a votre tampon.
Oui, tout à fait. Oui. Et les conclusions sont signées en plus par un greffier. Donc ce n'est pas un simple tampon d'entrée au greffe.
D'accord. Ok. Alors, imaginons dans notre dossier que c'est un dossier simple, qu'il n'y a pas de, qu'il n'y a pas de conclusion. Chacun fait valoir ses arguments et puis à un moment donné, le juge estime qu'il a tout ce qu'il lui faut pour prendre sa décision. Il dit qu'il prend en délibéré. Et qu'est-ce qui se passe ensuite de votre point de vue ?
Donc, en fait, pour un dossier qui est pris en délibéré, eh bien, pour nous, c'est tout simple, puisque c'est le magistrat qui va faire tout le boulot à partir de ce moment-là, jusqu'à ce que le projet de jugement soit prêt. Mm-hmm. Donc, c'est le magistrat qui va réfléchir de son côté et qui va préparer un projet de jugement que le greffier va ensuite mettre en forme, donc vérifier, faire les vérifications au niveau des montants, au niveau des dates qui se trouvent dans le jugement. Mais le plus gros du boulot, c'est le magistrat qui le fait à ce moment-là.
Ok, parce qu'il y a une vue de l'esprit. Il y a des gens qui racontent que ce sont les greffiers qui font tout le boulot et que le juge ne se contenterait que de signer. Donc, c'est pas vous...
Non.
Non, donc les magistrats travaillent vraiment.
Oui, oui, je confirme.
Et donc vous vous servez de double check finalement, vous vérifiez par rapport à tout ce que vous avez noté pendant l'audience, vous vérifiez que les montants sont ok, vous vérifiez que, parce que ça arrive parfois qu'on soit distrait et qu'on inverse demandeur, défendeur, donc vous vérifiez que tout est ok.
Oui. Okay. Oui, voilà, c'est ça. Donc, on vérifie toutes les données, les noms, comme je vous disais, donc les montants aussi. On vérifie aussi au niveau des frais de citation, de la mise au rôle, etc. Donc, parce qu'un dossier, c'est payant, forcément. Et donc, tout ça, on doit vérifier aussi au moment du prononcé du jugement, pour savoir quelle partie est condamnée à payer les frais de justice.
D'accord. OK. Donc, une fois que vous avez fait toute cette vérification, comment ça se passe ?
Donc, quand le jugement est prêt, donc maintenant, nous procédons à la signature électronique. Et le jugement est envoyé en majeure partie via l'e-box. Donc, les justiciables reçoivent le jugement en version électronique.
Alors ça, pour ceux qui ne connaissent pas l'e-box, il faut expliquer ce que c'est.
Mais donc, en fait, c'est une boîte électronique qui est mise à disposition par le gouvernement. Mmh. Et les justiciables peuvent accepter ou refuser que cette boîte électronique soit activée. Mmh. Donc, si le justiciable refuse qu'on active cette boîte, alors nous procédons à la notification par voie postale comme à l'ancienne, on va dire. Mmh. Si le justiciable a accepté donc la notification par voie électronique, alors le jugement est envoyé automatiquement via cette boîte.
Et donc le justiciable, lui, reçoit une notification souvent par mail qu'un document est disponible dans sa e-box.
Oui, voilà, et... c'est ça. Et donc il peut aller consulter. Parce que oui, le jugement ne va pas arriver
en mail.
En mail, oui, voilà. Non. C'est une boîte mail qui doit être consultée par le justiciable.
Oui, et qui est accessible via ITSMI ou le lecteur de carte d'identité.
Oui.
Donc c'est une boîte qui est sécurisée et qui est confidentiel, donc chaque personne a sa propre boîte, donc il n'est pas question d'avoir accès à la boîte du voisin ou de la grand-mère.
Oui, ouais, avec la carte d'identité de la grand-mère peut-être, mais, oui, mais en tout cas pas sans carte d'identité.
Pas sans carte d'identité.
Oui, et donc et toute une série d'informations passe par là aussi au niveau légal. C'est vrai qu'on peut recevoir toutes des informations utiles par cette e-box. Oui. Donc, c'est intéressant à activer.
Oui, mais je pense qu'à l'heure actuelle, toutes les justices de paix envoient leur jugement par ce... Enfin, tous les juges de paix envoient leur jugement par ce biais-là. Il me semble qu'il y a aussi les tribunaux de police.
Oui.
Par contre, les autres tribunaux, c'est pas encore d'actualité, me semble-t-il.
Oui, c'est possible. Ça, je ne vais pas vous donner d'informations. Pas encore ?
Je pense pas. Non. Mais c'est un work in process, comme on dit en anglais.
on va y arriver. La numérisation.
Mais non, c'est pas mal, parce que ça évite les pertes de courrier, ça évite parce que nous, les avocats, on les reçoit par mail, mais parfois, ça se perd ou ça arrive, ça atterrit dans la boîte à spam. Mais au moins avec cette e-box, on a la certitude que ça arrive chez le bon destinataire.
Oui. Oui, c'est vrai que c'est intéressant. Et puis bon, c'est vrai qu'on peut faire des économies de papier aussi.
Aussi.
Pas négligeable.
OK. Donc là, le jugement est envoyé. À ce moment-là, par rapport à ce dossier-là, vous, votre travail est terminé.
Oui. Enfin, après, donc, le dossier est archivé, forcément. Donc, par numéro de répertoire, puisque chaque dossier avait reçu un numéro de rôle à la base, donc ça on en a parlé tout à l'heure. Au prononcé du jugement, le jugement reçoit un numéro de répertoire du juge.
D'accord.
Et donc les dossiers sont classés par numéro de répertoire pour ensuite suivre un délai pour éventuellement l'archivage par la suite et l'évacuation des archives 10 ans plus tard.
Oui.
Voilà.
Alors... est-ce que on peut faire appel d'une décision du juge de paix ?
Oui, 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 on peut faire appel, oui, bien sûr. Et donc, en fait, la personne doit se rendre, puisque la justice de paix les décisions de justice de paix sont appelables en première instance, et donc la personne doit se rendre au tribunal de première instance qui est compétent pour introduire une requête d'appel si elle n'est pas satisfaite de la décision.
Ok, alors ici on a vu les rôles du greffier quand il y a une audience et le travail avant l'audience. J'imagine qu'il y a d'autres missions du greffier.
Oui, ici en fait en justice de paix, le greffier est assez polyvalent puisque le juge de paix a beaucoup de compétences et donc le greffier doit maîtriser toutes ses compétences et assister le juge à tout niveau. Et donc, pour donc la vérifier la régularité de la procédure, le greffier donc intervient directement à la base. Nous effectuons des permanences au sein du greffe pour la réception des dossiers et vérifier que tout est en ordre et que tout est respecté pour l'encodage des dossiers. Donc ça, c'est vraiment à la base du dossier, donc à la réception. Ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, le greffier assiste le juge aux audiences. Et en justice de paix, nous avons plusieurs procédures différentes. Donc les audiences publiques, ça on en a parlé, au contentieux. Ensuite, il y a les administrations, des administrations de biens. Et donc le juge de paix reçoit des demandes en vue de la désignation d'un administrateur pour les personnes qui ne sont plus capables de gérer leurs biens. Et parfois la personne.
C'est ce qu'on appelait avant la mise sous tutelle.
Oui.
C'est un peu grossier. Hein,
oui, mais c'est ça. Donc c'était les administrations provisoires.
Oui, avant. Mais c'est-à-dire que ces personnes qui ont du mal à soit gérer leur argent ou se gérer eux-mêmes parfois, parfois les deux. Et donc c'est souvent les proches qui saisissent le juge de paix en disant voilà, c'est plus possible, il a encore perdu sa carte de banque, il a encore dépensé tous ses sous, il n'a plus rien pour manger. Et voilà. Et donc ça, c'est une procédure très particulière. Et il n'y a que le juge de paix qui est compétent.
Oui.
Et comment ça se passe, ces procédures-là, du coup ?
Et donc, en fait, ces demandes sont introduites via une plateforme informatique. Donc, ça a été totalement informatisé. Et donc, les personnes peuvent accéder à cette plateforme qui s'appelle protectionjudiciaire.be. Et donc, à ce moment-là, c'est une requête à compléter en indiquant les coordonnées donc, de la personne requérante, donc la personne qui introduit la demande, les coordonnées de la personne à protéger, donc, pour laquelle on va désigner un administrateur. Et ensuite, on peut indiquer les coordonnées des membres de la famille, si de la famille doit être convoquée, et la constitution du patrimoine à gérer. Et donc, nous recevons, via le système informatique, ces demandes, et nous encodons les dossiers. Donc c'est sur base d'un certificat médical aussi qui doit être annexé à la demande, puisque c'est souvent un problème médical qui se pose. Et donc un médecin doit attester de l'incapacité de la personne à gérer ses biens et ou sa personne. Et donc le juge de paix va rencontrer les personnes à protéger, soit ici à la justice de paix si la personne peut se déplacer, ou alors on va se déplacer à la résidence de la personne, donc à son domicile ou dans une maison de repos si c'est une personne âgée qui est placée en maison de repos, ou parfois à l'hôpital aussi si la personne est hospitalisée. Donc le juge de paix fait des déplacements avec son greffier pour auditionner les personnes et les membres de la famille qui sont convoqués. Donc à ce moment-là, on va voir un peu si une personne veut être désignée dans les membres de la famille. S'il n'y a aucun souci à ce niveau-là, alors le juge va préférer que ça se passe dans la famille, que ce soit un proche. Et personne ne se propose ou s'il y a des conflits dans la famille, alors le juge préférera sans doute désigner un avocat pour gérer à ce moment-là.
Et donc, comme vous l'aviez souligné tout à l'heure, vous accompagnez le juge partout et donc vous l'accompagnez lors de ses déplacements en dehors de la justice de paix. Et le job, c'est le même qu'ici, en fait. Vous prenez note
Donc des choses importantes. Oui, donc on prépare l'audience, on vérifie que tout le monde a bien été convoqué, comme pour les dossiers ici à l'audience publique. Ensuite, on se rend sur place et on prend note. Mais donc là, c'est manuscrit puisqu'on est en déplacement, on n'a pas d'ordinateur. Donc mais là, on note vraiment les déclarations, donc tout ce qui a été indiqué lors de l'audience, puisque la famille va faire état des problèmes éventuels, du patrimoine à gérer, éventuellement les banques dans lesquelles les comptes sont ouverts. Et donc toutes ces informations sont intéressantes pour l'administrateur qui sera désigné ensuite.
Et donc l'audience a lieu donc en délocalisé entre guillemets, et donc quand vous rentrez avec le juge, bah, c'est le même travail que si c'était une audience classique ici en justice de paix.
Oui, ensuite, donc, après l'audition, une ordonnance est prononcée. Donc, on met le dossier en délibéré également. Et le juge de paix va rendre une ordonnance en choisissant donc, déjà si oui ou non on prononce une désignation d'administrateur, puisque parfois, simplement, il n'y a pas lieu.
Oui. Il n'y a pas lieu parce que parfois, les enfants sont enquiquinés. Ils se disent que mémé ou maman serait mieux. Et ça, le juge s'en rend compte très vite.
Oui, en fait, c'est pour ça que le juge va rencontrer la personne à protéger pour voir un peu dans quel état elle est réellement et voir si elle est encore capable ou pas de gérer ses biens. Mm-hmm. Et donc, c'est vrai que parfois, il peut y avoir des abus de certains membres de la famille ou même des inquiétudes infondées. Mm-hmm. Ça peut arriver aussi, donc c'est pas forcément une mauvaise intention. Mais, oui. Et la personne qui devait être protégée, alors, se défend aussi et parfois prend aussi un avocat, ça arrive aussi que la personne consulte un avocat pour faire valoir ses arguments et expliquer que non, elle est tout à fait capable de gérer et que c'était une mauvaise passe, mais que ça va mieux. Voilà.
Okay.
Donc une ordonnance de désignation n'est pas d'office prononcée, ça c'est à l'appréciation du magistrat, et donc le greffier attend l'avis du magistrat, donc le nom de l'administrateur à désigner et les particularités à indiquer dans l'ordonnance.
Ok.
Voilà.
Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont attribuées au greffier dans le cadre du travail du juge, puisqu'on a bien compris que vous étiez des binômes?
Et donc ici, pour ces dossiers-là, après, il y a aussi les notifications des ordonnances.
Oui.
Donc, après la désignation de l'administrateur, forcément, on doit avertir tous les membres de la famille qu'on désigne quelqu'un et surtout les coordonnées de la personne désignée. Donc, on envoie les ordonnances. Et sinon, pour ces dossiers-là, on a aussi un répertoire qui reprend tous les dossiers et qu'on essaye de maintenir le plus à jour possible, puisque c'est vrai qu'il y a un peu plus de 700 dossiers d'administration ici en justice de paix et date. Donc, c'est quand même une masse de dossiers.
Oui, c'est pas mal.
Oui, c'est pas évident, mais c'est pour ça qu'il faut être rigoureux dans son travail et rester toujours en éveil.
Oui. Ok.
Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres choses dans les attributions du juge de paix?
Il y a aussi les dossiers de mise en observation qui sont un peu particuliers aussi.
Effectivement.
Donc là, c'est la protection de la personne aussi, mais santé mentale.
Oui, donc ça, il faut un petit peu expliquer. Donc il y a des personnes qui, à un moment donné, rencontrent des difficultés d'ordre, on va dire, psychiatrique.
Voilà, exactement.
Et souvent, si je ne m'abuse, c'est quand elle constitue un danger pour elle-même et pour les autres.
Oui. Et donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, une requête peut être déposée à la justice de paix pour solliciter la protection de cette personne qui a des problèmes psychiatriques. Et donc, c'est encore sur base d'un certificat médical qui est établi. Et le juge de paix va aussi se rendre chez la personne pour se rendre compte de l'état réel de la personne et voir un peu si la demande est fondée ou pas.
Mm-hmm. Alors vous disiez que c'était sur base d'un certificat médical. C'est pareil que pour les autres types de dossiers. J'imagine que si la personne elle est déjà dans un hôpital psychiatrique, le juge peut aller la voir dans l'institution où elle se trouve.
Oui,
c'est la même
chose. Donc en fait, le juge qui lui rendra visite, c'est le juge qui est compétent territorialement pour l'endroit où elle se trouve.
D'accord.
Et donc si elle est dans un hôpital psychiatrique, c'est le juge sur le canton duquel se trouve l'hôpital psychiatrique.
D'accord.
Donc à Hatte, nous n'avons pas d'hôpitaux psychiatriques. Et généralement, les demandes de mise en observation sont faites par des particuliers. Et donc nous rendons visite aux personnes à domicile. Et si Madame le juge estime nécessaire de prononcer une mise en observation, alors à ce moment-là, la personne entrera en hôpital psychiatrique et le dossier sera transféré à la justice de paix qui est compétente pour cet hôpital.
D'accord. Et le transfert du dossier se fait de façon automatique?
Donc on attend toujours le délai d'appel, mais donc après ce délai, le dossier est envoyé à la justice de paix qui est compétente Oui, pour un éventuel maintien, en fait.
Oui.
Puisque la mise en observation est prononcée pour 40 jours. Mm-hmm. Et ensuite, en fonction de l'avis médical des psychiatres qui ont soigné la personne, il y a ou pas une demande de maintien en observation à l'hôpital psychiatrique.
D'accord. Oui, donc c'est 40 jours, et pendant ces 40 jours, bah, elle a l'opportunité d'être soignée, stabilisée, et donc à ce moment-là, soit on repart pour une observation, soit la personne, le psychiatre estime que bah, elle va mieux et qu'elle peut rentrer chez elle.
Oui, c'est ça.
Okay.
Et donc on appelle ça un maintien en observation, mm-hmm. la prolongation. De la mise en observation.
Okay.
Et là, c'est pour 2 ans, la prolongation.
Oui, c'est pas très sympathique, mais c'est souvent nécessaire.
Mais oui, mais c'est pas 2 ans enfermés non plus. Donc les personnes qui sont en observation peuvent sortir de l'hôpital avec l'avis du médecin. Et donc c'est vrai qu'on pense toujours enfermés pendant 2 ans, mais c'est le suivi qui dure 2 ans. Donc oui. On les contraint à un suivi de 2 ans, mais parfois c'est en ambulatoire. Et,
Oui, mais c'est vrai que les personnes qui se retrouvent dans cette situation-là et leurs proches qui n'étaient pas à l'origine de la requête, souvent estiment que 2 ans,
c'est très long, c'est très lourd.
Mais évidemment, la personne, elle évolue aussi, parce que parfois, elle est bien suivie, elle prend bien ses médicaments.
Ah oui, oui, mais de toute façon, c'est vrai que cette procédure-là, c'est assez compliqué pour les proches. Et c'est vrai que c'est une procédure contraignante, mais quand une mise en observation est prononcée, c'est vraiment nécessaire et c'est pour aider la personne. Mm-hmm. Donc ça, c'est ce qu'on explique toujours aux proches qui viennent ici à la justice de paix. Parce que c'est vrai que le boulot de greffier de justice de paix, c'est un boulot quand même assez social.
Mm-hmm.
Et donc, justice de proximité, ça veut dire ce que ça veut dire. On a beaucoup de personnes qui viennent nous rendre visite pour avoir des renseignements sur les procédures et pour expliquer un petit peu leurs problèmes. Et c'est vrai qu'on a un rôle d'écoute quand même assez important ici mm-hmm. à la justice de paix.
Et donc, cet accueil du public, vous parliez de... On en parlait, en fait, avant qu'on commence l'enregistrement. Il y a beaucoup de personnes, en fait, fragilisées socialement, bah, qui viennent vous voir et qui cherchent des solutions à leurs problèmes. Et le premier endroit où elles pensent venir, c'est ici, parce que il y a toujours une écoute, il y a toujours un accueil toute la semaine.
Oui. Oui, c'est vrai qu'on a parfois l'impression de jouer le rôle d'assistant social. Et bon, ben voilà, ça fait partie du boulot. Et bon, c'est vrai qu'on ne peut pas donner de conseils juridiques, mais parfois une oreille attentive, parfois c'est tout aussi bien. Et on se rend compte que, pas forcément dans des dossiers qui sont ouverts chez nous non plus, parfois ce sont des personnes qui demandent simplement des renseignements. Et donc, qui ont beaucoup de problèmes et qui ont besoin simplement d'être entendus.
D'être entendu ou avoir une orientation.
Aussi, parfois, une orientation dans une ou l'autre juridiction, mais pas que.
Mm-hmm. Ok. Est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour de ce formidable métier ? Moi, je le répète à chaque podcast. Sans le greffe et sans greffier, il se passerait pas grand-chose.
Le tour, c'est vrai que le métier de greffier de justice de paix, c'est très très varié, très complet. Donc je crois qu'il faudrait plus de temps
oui.
pour faire le tour, mais je crois qu'on a vu la majeure partie des tâches. Oui.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous le répéterai à chaque fois, mais c'est important pour moi de faire connaître ce podcast qui a une vocation d'information et d'éducation. Alors partagez-le autour de vous et n'hésitez pas à poser vos questions ou à suggérer un invité. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.